Well, do you think that they've shown a lack of appreciation for what pop art means?
No.
Andy, do you think that pop art has sort of reached the point where it's becoming repetitious now?
Yes.
Do you think it should break away from being pop art?
No.
Are you just going to carry on?
Yes.
Le pape du pop art, Andy Warhol, pas très loquace quand on lui demande de définir son art. Heureusement, il y a Hubert Artus pour nous éclairer. L'actualité des idées dans la dernière partie de la Grande Table avec Antoine Mercier et notre invité, journaliste culturel pour le magazine Lire, blogueur popcorner sur l'express.fr. Après un dictionnaire du rock, historique et politique du football, en 2011, Hubert Artus s'intéresse aujourd'hui à la grande histoire de la pop culture dans Popcorner, publié chez Don Quichotte en librairie ce jeudi, et à la manière dont elle a infusé tous les pans de la société, des représentations politiques aux causes sociales, à la fois culture grand public et contre-culture. Aux sources de la pop culture, il part de la révolution industrielle et de l'élaboration d'une culture ouvrière, puis montre comment la culture pop a explosé avec l'arrivée de la télévision et de l'industrie du cinéma dans les années 50. Il met en avant également ses icônes, celles de la pop culture, ses places fortes de Londres à Détroit, ses courants et ses luttes diverses. Bonjour Hubert Artus.
Bonjour et merci pour ce résumé. C'est pas facile à résumer la pop culture, parce que c'est une boule à facettes et vous l'avez très bien fait.
Mais c'est encore plus difficile à définir, encore plus difficile à préciser, et c'est ce à quoi vous allez devoir vous employer. La pop culture, est-ce qu'elle est par essence populaire ?
Alors, pas populaire au sens où on l'entend en France, c'est-à-dire au sens zidanien du terme, au sens qui plaît au plus grand nombre. La pop culture, qui est une terminologie britannique, est la fusion de deux termes, et donc de deux signification. C'est populaire au sens britannique du terme, c'est-à-dire qui vient de la rue, qui s'oppose à ce qui vient des élites. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le verbe to pop up, surgir. C'est le surgissement de quelque chose qui vient de la rue. Donc c'est en général un phénomène de jeunesse. Donc c'est en général un phénomène contre-culturel qui est parfois et puis souvent récupéré par le marché, etc., etc. Mais c'est pas populaire au sens français du terme.
Est-ce que les deux critères sont cumulatifs, je veux dire, ou est-ce que vous appelez pop culture aussi des choses qui sont simplement contre les élites, qui viennent de la rue et qui ne sont pas forcément des revendications et réciproquement ?
Alors non, mais c'est l'éternel écueil justement pour savoir bien. Ça dépend de quelle ligne on se place, mais c'est par exemple pour ne pas considérer que toute contre-culture est pop culture que j'ai tenu sur le mouvement punk, les années punk, à dire qu'il y a une culture punk du look, le pantalon à épingles, l'écossais, la crête, le reggae dans la musique, la façon de déambuler dans Londres, etc. Ça, c'est culture punk, mais la musique punk, je la rapproche pas de la pop culture. Alors, c'est un truc comme ça, on a l'impression que je parle un peu pour érudit, mais j'espère que ça devient plus clair quand on lit tous les passages. Et justement, c'est pour ça qu'il faut expliquer toutes les additions qui font toutes les couches, tous les millefeuilles qui font la pop culture, parce que justement c'est une éternelle addition, c'est un éternel recommencement, et parfois il y a des choses qui s'en excluent, parfois il y a des choses qui s'y ajoutent, et le punk c'en est vraiment à mon sens un exemple typique, parce que c'est à Londres qui est une des places fortes de la pop musique et de la pop culture, mais je pense pas qu'on peut dire que la punk musique est pop, c'est beaucoup trop rageur. C'est pas assez mainstream pour pouvoir être récupérable par la pop. Par contre, la culture, le look, la mode, la façon de faire des autoproductions, de musique, des labels indépendants, etc. Ça, c'est pop culture. Au sens pop-up et populaire qui s'oppose aux élites. Je pense, il faut les deux pour être, à mon sens, pop culture. Et à mon sens, la musique punk n'a que le côté populaire qui s'oppose aux élites, mais pas le côté pop-up surgir, à mon sens.
Hubert Artus, on recevait dans la grande table Marielle Masset pour son ouvrage Style, qui nous disait que justement dans notre manière d'apparaître, dans notre style, ce que vous venez à l'instant d'évoquer, ça en disait en gros assez long sur ce qu'on est. Vous vous définissez comme un homme pop ou un homme punk ?
Mais je vous pose la question.
À juger de votre apparence, c'est compliqué.
Il n'y a pas de crête.
Alors, voilà, il n'y a pas de crête. Il n'y en a jamais eu. Il y a effectivement les cheveux rasés. Il y a effectivement maintenant une barbe, mais avant, il y avait des roues flaquettes. Il y a effectivement le polo Fred Perry et la veste Adidas.
Bon. Et on n'a pas décrypté les bagues.
Donc, j'ai tout. Donc, j'ai effectivement.
Mais vous n'êtes pas l'eau à côté de Fanny Ardant, qui avait de très beaux bijoux.
Donc j'ai pas mal d'attributs, mais c'est mon identité. Comme je le dis dans le bouquin, donc autant le dire clairement aussi à cette antenne, moi je suis de ce qu'on appelle la génération X, je suis né en 1973, je suis d'une génération qui a appris l'importance de la culture en même temps que l'importance du militantisme. Et là, pour ma génération, s'inscrire dans le monde, c'était à la fois un phénomène culturel et un phénomène militant.
Quel militantisme en fait ?
J'appartiens, moi j'étais à Scalp Reflex et puis après à Ralph Front, donc j'étais ce qu'on appelle skin antifasciste, Red Skin, d'où Polo Fred Perry. Et puis après, j'ai été sur un militantisme plus rhétorique et moins bastonneur, donc là, plus Ralph Front, etc. Je fais partie de la génération qui a milité pour le mouvement des haltères, pour le mouvement des sans-papiers. J'ai parlé des sans-papiers parce que je pense qu'il faut le faire, parce que je pense que s'inscrire dans le monde, ça correspond à ça. Mais si c'est mon identité, c'est parce que c'est aussi ma culture. Et ma culture, elle vient des Biruriers Noirs, qui ont été aussi un des grands groupes de rock alternatif français des années 80, qui chantaient ça. Mais c'était à la fois rendre les concerts gratuits, prendre les salles d'assaut, faire des concerts de soutien aux chômeurs, faire des disques les moins chers possibles.
Donc c'est pas très pop aussi, tout ça. C'est pas très pop.
Mais parce que ça va avec une démarche politique qui était de soutenir les mouvements antifascistes, etc., 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 d'aller contrer les rassemblements nazis, etc. Ça, les deux vont ensemble.
Et tout ça est récupéré aujourd'hui ou ça continue ?
Alors, tout
juste
ça est
pour
récupéré,
faire un focus
ça continue, etc.
Aujourd'hui.
Mais enfin, aujourd'hui, il y a plus ce genre de... Parce que malheureusement, les générations d'après ont plus militantisme là, mais il y en a d'autres aussi. Mais cette politique-là n'est pas récupérée. Mais ce qui est récupéré, c'est la façon dont des jeux vidéo deviennent des applications. C'est le Pokémon qui était un manga puis un jeu vidéo aux années 90 qui devient une application aujourd'hui, le Pokémon Go.
De la pop culture, ça, le Pokémon ?
Parce que ça vient du manga, qui est un truc typique de la pop culture asiatique. C'est la version asiatique de la science-fiction anglo-saxonne et britannique, hein, le manga Albator et tout ça. Alors, il y a le manga science-fiction et puis il y a le manga romance, Candy. On a tendance à l'oublier, mais Candy,
c'est un manga. C'est la pop culture. Ah non. On va vous expliquer, Antoine Mercier, je vais essayer de comprendre.
Je sais pas ce que c'est Candy, d'ailleurs. Candy, c'est quoi Candy ?
Au pays de Candy, il y a des méchants et des gentils.
Il n'est pas de la même génération. Bon, en tout cas, Hubert Arthus.
Je sais pas si je vais continuer.
Je pensais pas venir chanter Candy aujourd'hui, mais...
Vous avez des enfants et des petits-enfants, Antoine Mercier.
Certainement, oui. Bon. Je leur parle d'autre chose.
Où en étais-je ? La pop culture, Hubert Arthus. Donc, vous êtes de cette génération, en tout cas, où la pop culture a explosé. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet ouvrage, Pop Corner, vous remontez aux sources de la pop culture. Et elle est née finalement beaucoup plus tôt que ce que l'on imagine. Vous posez les bases, les jalons, les premières pierres de cette pop culture entre les années 1920 et 1950 et surtout après la Grande Guerre, cette nouvelle ère qui sera finalement l'ère des comics, hein, qui sont à la base du pop art, à l'origine du pop art.
Exactement. Alors après, il y a un peu une guerre de spécialistes. La plupart des gens qui s'attaquent à la pop culture, la date des Beatles, parce que c'est la première fois qu'on a parlé de façon planétaire de pop et on a mis musique à côté. Peu la date de Warhol, qui sont en fait la première fois qu'on a parlé de pop, mais on a mis pop art à côté. Moi, je l'ai daté des comics parce que c'est le moment où il y a une presse de masse, de divertissement, qui va inventer une culture qui devient une culture de masse. Et cette culture de masse vient s'opposer à la culture de classe verticale où les élites académiques disent au bon peuple les opéras qu'il faut aller voir, etc. Au sortir de la Première Guerre, on est encore dans ce monde-là. Et si cette culture de masse peut venir à ce moment-là, c'est parce que justement, on est après la Première Guerre mondiale. Il faut quand même pas oublier que ce 1914-1918, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que le monde prend conscience que la fin du monde est tout à fait possible du jour au lendemain, et complètement la vieille fin du monde ressassée par toutes les légendes ou toutes les mythologies, voire les religions, en fait c'est vrai, c'est possible. Le monde a pris conscience de sa fin imminente possible. Alors c'est le début du capitalisme, parce que le capitalisme se dit, ah bah tiens, les gens ont enfin compris qu'ils pouvaient mourir du jour au lendemain, donc on va leur apprendre à profiter aussi du jour au lendemain. Donc vive le capitalisme, vive toute économie, vive le divertissement. Et sur ce divertissement, il y a la presse de masse qui ne se contente plus de faire des récits d'aventures, etc., avec des grands reportages et des grandes photos, mais aussi des fictions. Et c'est les premiers hard-boiled d'Achille Lemaître et Montchandler, les deux papes du polar, du roman noir moderne. C'est l'arrivée de la grande science-fiction qui naît aussi sur les décombres de la Première Guerre mondiale. Hein, c'est ce récit où on va dire que bah voilà, finalement, on peut inventer un autre monde après avoir pris conscience de sa fin imminente possible. La romance, parce que c'est aussi le triomphe de la littérature amoureuse à l'eau de rose, qu'on revoit triompher aujourd'hui parce que c'est le carton éditorial aux USA et en France avec le phénomène de la New Romance, d'où le perpétuel recyclage que je dis sur la pop culture. Et puis, plus tard, il y aura les comics, effectivement, parce qu'il y aura des bandes dessinées, des super-héros.
Alors justement, merci. Vous liez cette naissance de la pop culture à cette sensation post-guerre mondiale, première guerre mondiale, que la fin du monde, en tout cas, peut arriver, même par l'action des hommes, oui. Ça peut se produire. C'est très intéressant parce que c'est un moteur qui est donné à cette culture et qui l'explique. Mais quel genre de réponse apporte ce mouvement, précisément, ou d'attitude apporte la pop culture à cette situation
nouvelle ? C'est le divertissement.
Nouvelle.
C'est le divertissement et c'est le divertissement par les genres. Ok, avant il y avait un peu les récits amoureux, il y avait les grands récits sociaux ou sinon il y avait le romantisme, etc. Mais faut pas oublier qu'on a une période où le roman est né il y a peu longtemps. Hein. Tous les arts de la littérature, la poésie, le théâtre sont nés entre, en gros, le début des temps et puis le 19e siècle. Mais c'est dans la seconde moitié du 19e qu'on connaît le roman. Et le roman, l'art du roman arrive aussi à maturité et il peut se décupler en genre. Et ces genres ont des codes, ont une façon de voir le monde qui est nouvelle. C'est le roman noir à la Dashiell Hammett et Raymond Chandler qui n'est plus justement juste le cluedo, trouver le coupable, etc. C'est parler des crises financières, du patronat, le roman noir social. C'est la science-fiction qui vient inventer un nouveau récit après la catastrophe qui finalement n'a pas eu lieu parce que la science-fiction a déjà prévu qu'il y en a un qui allait arriver et puis qu'il savait très bien que le nucléaire était en train de s'étudier et que ça allait pouvoir répéter un jour.
Nouveau récit, nouvelle mythologie finalement aussi. Hein.
La New Romance, parce que faut pas oublier qu'on est dans un récit de masse, donc l'amour étant heureusement la chose la plus universelle du monde, le roman d'amour, alors c'est à l'eau de rose, hein, c'est littérairement, ça va pas péter bien loin la romance ou la New Romance, mais il faut ça aussi. Et puis après, justement, on met des strips, on met des cases, on met des comics, et puis autant ces récits de genre dont je parle sont des nouveaux genres littéraires, mais ils n'ont pas encore inventé de nouveaux héros. Par contre, ce que vont apporter les comics, outre des codes couleurs, outre une nouvelle bande dessinée, outre des paysages nouveaux, des univers nouveaux, c'est justement des super-héros avec des super-pouvoirs et Superman
qui
est le premier.
Qui sont justement ces super-héros-là
et c'est Superman
qui est le premier, qui apparaît en
1920. En quoi, précisément, ils sont les produits de cette culture-là et en quoi ils répondent à la problématique dont on parlait tout à l'heure, à savoir qu'il y a des gens qui peuvent sauver aussi par un acte de générosité.
Je ne sais pas, mais on a tous voulu avoir des super-pouvoirs, sauver le monde, sauver la femme qu'on aime ou l'homme qu'on aime, etc. Donc avoir des super pouvoirs, pouvoir voler, pouvoir casser les murs, pouvoir buter tous les ennemis, pas forcément pour prendre le pouvoir, mais juste pour rêver, juste pour pouvoir avoir un monde à offrir à son être aimé, par exemple, ou à sa famille, ou au sien, un beau futur. Ça c'est le super-héros, ça c'est Captain America, ça c'est Superman. Et puis l'autre identité qu'il a, c'est qu'il est différent. Il a beau avoir des super pouvoirs, il est différent des autres. Et il symbolise aussi l'étranger, éventuellement, il métaphorise l'étranger, le migrant aux USA, et puis il métaphorise un personnage que les civilisations occidentales commencent à peine à connaître avec à la fois l'explosion des mégapoles et la crise financière, le sans-domicile fixe, qui lui aussi commence à apparaître à cette époque-là, et lui aussi est différent, puisque bizarrement, il n'a pas de domicile, mais pourquoi ? Il n'a pas de famille, mais pourquoi ? Voilà. Le super-héros, mine de rien, il représente ces deux différences et il les porte très haut. Et donc, c'est pour ça qu'il correspond, il métaphorise deux phénomènes réels tout en pouvant s'adresser aussi à l'imaginaire des enfants.
À travers cette production de héros, c'est aussi intéressant de voir comment la pop culture fédère, comment elle se crée aussi à partir d'une communauté de fans, c'est-à-dire ce que ses lecteurs, ses spectateurs, ses auditeurs projettent dans cette pop culture. Comment le public parvient à se réapproprier ces héros et en se les réappropriant, arrive à en fabriquer des nouveaux.
Ça c'est l'éternel, ça c'est le pouvoir de la culture d'une part en général, on s'identifie tous à des héros et puis on a envie, si on est un peu créateur, on a envie d'en recréer d'autres, etc. Et la pop culture, alors on parle là à la fois de bandes dessinées, de comics, on parle de romans, on parle de musique, on parle d'art, on parle éventuellement de théâtre, on parle de look, on parle de cultures qui sont tellement différentes et qui correspondent à ce moment-là à des looks, à des personnages, à des histoires que veulent s'approprier des générations. Alors là, on parlait précédemment des enfants de la Première Guerre par rapport aux comics, mais tous ceux qui vont découvrir le rock américain, la pop anglaise, etc. après-guerre, c'est les baby-boom. Et ils ont envie de créer leurs propres univers, de fabriquer leurs propres vêtements, et donc d'avoir les mêmes vêtements que leurs copains, donc ça crée des tribus, et c'est ce qui prépare le Londres qui va accueillir la pop, le Londres et le Liverpool et le Manchester des Beatles. C'est toutes ces guerres de tribus, c'est les Rockers, c'est les Teddy Boys, c'est la première vague skinhead, c'est des gens, c'est des jeunes qui sont issus de la première vague d'immigration qui arrive aussi en Grande-Bretagne et qui n'écoutent pas forcément, eux, que de la musique blanche, qui écoutent de la musique jamaïcaine, qui écoutent ce qui viendra du reggae. Ils écoutent ça, ils s'habillent en fonction et ça crée des nouveaux codes vestimentaires qui sont un peu métissés. Et ça, l'Angleterre, encore très puritaine, très empirique, qui est encore une force coloniale, le découvre et ne l'aime pas forcément. Hein. Je raconte dans le livre comment ce que le Premier ministre britannique, Harold Wilson, perdra les élections, entre autres, en 77, entre autres, parce qu'il n'a pas voulu suffisamment tôt accepter sur les ondes publiques anglaises cette pop musique. Alors là, le cynisme, c'est que du coup, ça va porter au pouvoir Margaret Thatcher, tout ça. Mais c'est parce qu'il y a eu des campagnes faites par des majors de pop anglaise pour l'éliminer qu'il a perdu les élections.
Pour l'histoire, parce que vous avez parlé de la Première Guerre mondiale comme moment important, mais la Deuxième Guerre, finalement, qu'est-ce qu'elle produit comme changement d'état d'esprit par rapport à tout ce mouvement ?
La Deuxième Guerre, c'est principalement sur les auteurs de science-fiction qu'elle va apporter un sacré coup de grâce, parce que ils savaient que les questions nucléaires étaient à l'étude, que ça pouvait péter, mais jamais ils ne s'imaginaient que ça se ferait à cette échelle-là. Et surtout, au sortir de la Seconde Guerre, on se dit, si ça a pété à Nagasaki, à Hiroshima, si ça a mis fin à une guerre, ça peut répéter un jour. Et immédiatement après, on a la guerre froide, où à ce moment-là, la majeure partie de l'humanité pense que soit les USA, soit les Russes vont l'utiliser, la menace nucléaire. Et donc, pour les auteurs de science-fiction, ils se disent, on peut pas aller aussi loin que prévu dans la dystopie, parce qu'en fait, le réel et l'histoire nous ont doublé. Donc, la vieille science-fiction, qui est en fait la fiction scientifique, avec un peu de... Mais la science-fiction, c'est la fiction de la science. Ah, comment on fait ? Et ben alors, là, c'est le début du roman post-apocalyptique où on imagine le monde d'après, justement. Et ça, ce mouvement-là, on le voit encore aujourd'hui. Hein. La route de Cormac McCarthy, le livre devenu film, c'est ni plus ni moins que ça.
Hubert Arthuis, j'aimerais qu'on termine cet effort de définition qu'on a entamé. C'est un peu l'hydre à cinq pattes. Hein. On l'entendait, comics, musique, séries, cinéma, la pop culture, vous l'écrivez, est plurielle, à la fois alternative et mainstream, commerciale et militante, conformiste et subversive. C'est une boule à facettes où scintillent super-héros de bande dessinée, personnages de cinéma, séries, jeux vidéo, look, musique qui font danser la planète. Bon, donc c'est un peu tout et rien à la fois, presque un nom générique, peut-être même un concept marketing. Est-ce que vous avez retenu finalement une définition de la pop culture, un dénominateur commun entre tous ces éléments-là, ou peut-être une définition par défaut, en fait?
Mais il peut pas y avoir d'autre définition qu'une boule à facettes qui est faite par justement à la fois des tribus, à la fois des codes, à la fois des...
Enfin, une boule à facettes, elle fait boule quand même.
Mais voilà.
Donc, comment ça fait boule?
La façon la plus simple de la définir, c'est de dire que c'est un millefeuille ou une boule à facettes où il y a tout ce que je brosse, mais qui s'auto-alimente et qui se recréer, qui se recycle, etc. Mais il faut bien garder à l'esprit les deux acceptions à la britannique, populaire qui vient de la rue, qui s'oppose aux élites académiques, et tout pop-up surgir. Avoir conscience de ce que signifient ces deux verbes, c'est la meilleure façon d'envisager déjà le phénomène.
Est-ce que, par exemple, entre Andy Warhol et Lady Gaga, il n'y a pas un point commun ou des points communs?
Le melon, peut-être, la melonite.
C'est un peu faible. La boule, comme disait Antoine Mercier. Est-ce que c'est pas l'ambivalence, quand même?
Oui, voilà, mais c'est.
Encore
plus pour Warhol, qui a été le premier à détourner à la fois l'imagerie du capitalisme, les pubs, etc., puis en même temps à accepter que soient vendues de plus en plus cher ses propres œuvres, participant ainsi à l'élitisme de l'art moderne. C'est l'éternel ambivalence, justement. Lady Gaga, c'est plus un produit qu'Andy Warhol.
Pour vous, c'est pas de la pop culture, Lady Gaga?
Si, je la mets dedans. Enfin, c'est sur la mauvaise face de la pop culture.
De la boule.
Le moment où on recycle ce qui a déjà été recyclé.
Quand on arrête de danser. Dans Pop Culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités, Richard Memto, prof de philo et geek, il a lui aussi tenté de définir ce qu'était la pop culture. Il le fait en estimant que c'est une forme de stratégie alimentée par l'obsession de savoir ce que veulent les masses. Il différencie la pop culture assez clairement, voire radicalement, de la contre-culture. Écoutez.
Effectivement, la pop culture peut aussi être distinguée de la contre-culture ou de la sous-culture. Donc c'est des termes qu'on retrouve en sociologie, hein, et donc c'est des termes importants. Moi, je pense que la pop culture a une différence majeure avec la contre-culture, par exemple, ou la sous-culture, c'est de dire que elle ne tient plus à son authenticité. D'abord, effectivement, une culture commence finalement par constituer une communauté et qui justement doit installer une certaine imperméabilité avec les autres formes de culture plus hégémoniques ou plus majoritaires. Mais la stratégie de la pop culture, c'est de dire que on va devoir à la fois garder un peu de cette authenticité, mais la mélanger, l'hybrider, alors la métisser avec les formes plus majoritaires. Et donc finalement, c'est à la fois une culture un peu libératrice, puisque elle dit qu'on n'est pas spécifiquement attaché à son origine. Et en même temps, on ne peut pas se départir de ça, c'est aussi une culture un peu de la trahison de sa propre communauté. Il faut en sortir, il faut plaire à un public plus large, et donc peut-être aussi se travestir, prostituer sa propre culture originelle. Et donc ça crée des tonnes de problèmes dans l'histoire, hein. Tout simplement quand les bluesmen noirs sont repris par des blancs, on a du mal à ne pas compatir avec, je sais pas, avec Skip James, par exemple, qui se voit sauvé, c'est vrai, en même temps par ses propres admirateurs, mais qui comptait énormément ses sous à la fin des concerts parce qu'il était écœuré de voir que lui ne gagnait jamais d'argent, alors que tous les autres petits blancs à côté, très jeunes en plus, remplissait des salles entières.
Le philosophe Richard Memto, des réflexions sur la pop culture publiée à La Découverte, c'était en 2014. La contre-culture, pour lui, refuse donc la réappropriation et la récupération pour s'opposer au monde marchand. Au contraire, la pop culture accepte totalement l'idée de cette appropriation. Vous, vous tranchez pas clairement entre culture, contre-culture pour la pop culture. Ça ne vous va pas comme effort
et ses définitions. Pas clairement, si je peux me
une contre-culture,
c'est que je ne vois pas une frontière si nette que ça. Ni dans la culture en général d'ailleurs, parce que la culture n'est pas là pour faire des frontières, au contraire, c'est là pour les faire tomber. Et moi je trouve ça heureux que dans une culture qui devient mainstream et donc mine de rien globale, il y a aussi des épiphénomènes de contre-culture qui effectivement se font récupérer. Mais dans le monde occidental de 2017, on peut pas être aussi radical que ça. Par exemple, on peut très bien refuser de prendre des taxis Uber, mais quand même aller sur Google. C'est délicat, on peut pas à la fois refuser Google, c'est assez délicat. Donc il en va de même pour la contre-culture dans la pop culture. Moi je trouve ça au contraire heureux que dans une culture mainstream, à disposition de tous, de plus en plus souvent pas chère ou gratuite, pour ce qui est de la musique ou des séries surtout, il puisse y avoir des épiphénomènes de la contre-culture, parce que ça favorise justement la contre-culture, ça donne conscience de ce que c'est. Et moi, je suis pas très d'accord. J'ai lu le livre, il fait d'ailleurs partie de ma bibliographie, mais je refuse, mais c'est parce que c'est mon identité aussi, mais de la même façon que je refuse, la plupart des gens qui parlent de pop culture, ils voient une définition un peu, genre un truc pas trop engagé, un peu mièvre, un peu mou du cul pour la musique, etc. etc. Moi, franchement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et je l'écris aussi. Il y a une pop culture qui a toujours été engagée. Il y a le rock indépendant anglais, le rap. Je suis désolé, mais le rap, que ce soit la première révolution rap des années 75-78 aux USA, le rap français des années 80, le gangsta rap des années 90, là c'est plus bling bling, mais il y a un engagement. Et ça fait pas. Et il y a aussi de la contre-culture, et il y a aussi du mainstream, et il y a aussi de la récupération. C'est un tout. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut absolument pas faire une.
Mais c'est intéressant quand même de s'interroger sur ces stratégies de récupération par l'industrie culturelle, ces stratégies marchandes qui finalement gouvernent aussi la culture pop, puisqu'elle permet de la diffuser largement. C'est une culture de masse. La culture pop, et même une culture mondialisée. Et on a parlé un tout petit peu de Londres, mais c'est quand même majoritairement une culture qui nous vient des États-Unis.
Oui. Sauf pour la musique, où c'est quand même aussi assez essentiel. Enfin, il y a la musique anglaise, etc. La techno est le seul mouvement musical qui n'a pratiquement rien d'américain. Il y en a eu à Détroit, mais sinon, c'est allemand, français. Et d'ailleurs, dans le livre, c'est la seule trace de la France dans l'histoire de la création d'une pop culture, avec la French Touch, les labels techno, etc. C'est justement la techno. C'est la seule trace de la France qui est le seul moment où on a inventé quelque chose en termes de pop culture.
Antoine, merci.
Est-ce que le label, est-ce que la récupération, plus précisément, le facteur récupération n'est pas en train de grandir au point qu'il ne reste plus grand-chose à l'extérieur de ça. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui ?
C'est vrai qu'il grandit. C'est vrai qu'il grandit dans la culture comme dans la pop culture comme partout. Mais il y a quand même parfois des niches, des nouveaux labels, des nouvelles façons de pouvoir consommer des séries, etc. C'est vrai que la pop culture, comme beaucoup d'autres domaines de notre vie quotidienne, est il faut pas s'en cacher, de plus en plus business et de plus en plus effectivement aux mains des grandes majors, des grandes sociétés de distribution ou des canaux de flux, parce que maintenant on raisonne en canaux de flux. Peut-être que dans 20 ou 30 ans, je pense que ça existera toujours, cette forme de culture-là, mais peut-être qu'on n'appellera plus pop culture parce que ça n'aura plus rien, soit de populaire qui s'oppose à l'élite, soit de tout pop-up.
La culture, la première culture autodidacte d'importance, ainsi écrivez-vous à propos de la pop culture Hubert Artus, une culture de masse qui a supplanté la culture de classe, spécifiez-vous. Aujourd'hui ultra-marketée, souvent mainstream, elle garde les traces de la culture militante de ses débuts d'après vous, avec parfois des traces, un message politique qui viendrait de la contre-culture. Invité de la dernière partie de la grande table, Hubert Artus, Pop Corner, la grande histoire de la pop culture 1920-2020, on y est presque, c'est paru chez Don Quichotte. London, Paris, Munich, everybody talk about pop music, talk about pop music, talk about pop music, pop music, pop music. France Culture, la grande table, Olivia Jesbert. Est-elle perdue pour la cause culturelle, la pop culture? Est-elle vouée à se laisser manger par la récupération marchande? Le philosophe marxiste représentant de l'école de Francfort, Théodore Adorno, dénonçait déjà à l'époque, dans les années 60, l'alliance entre protestation politique et la pop musique. C'était dans un documentaire de Meinhard Prilt et Kurt Schneider. Écoutez.
Ich glaube allerdings, dass Versuche politischen Protest mit der Popular Music, also mit der Unterhaltungsmusik, zusammenzubringen.
Je pense que tous les efforts pour allier Protestation politique et Pop Music, musique de divertissement, sont voués à l'échec. Cette musique a beau se donner une image moderniste, elle reste liée à sa dimension commerciale et appelle à la consommation. Toute tentative de lui conférer une autre fonction reste superficielle. Si quelqu'un prend la pause et pousse la chansonnette pour nous dire que la guerre du Vietnam est insupportable, c'est sa chanson que je trouve insupportable, car il transforme l'horreur en un produit de consommation. Il essaye d'en extirper des qualités commerciales.
Est-ce qu'on peut aujourd'hui, pour vous, Hubert Artus, déconnecter la pop musique de sa logique marchande? Est-ce qu'elle peut un jour en sortir? Pop musique ou pop culture, hein, mais pour être un peu plus spécifique.
Je pense que pour beaucoup d'inventions culturelles, effectivement, elles sont dans la civilisation du smartphone, etc., etc., destinées aussi à devenir des produits. Mais ça, la Motown. Était une invention, enfin le type qui a inventé la Motown, Kirby, voulait en faire un produit, voulait les marketer 3 minutes avec un refrain, etc., etc. C'est devenu des standards. C'est pas forcément une insulte, mais je pense effectivement qu'elle est vouée à y rester. Mais je pense que c'est justement en étant vouée à y rester dans ces flux là qu'elle peut aussi garder de la subversion. Et il est temps que je le prononce ce mot là parce que c'est aussi une cellule souche de la pop culture. La subversion en fait partie, et c'est en étant dans grand Moloch qu'on peut faire de la subversion pour non pas en sortir, mais faire changer la direction.
À moins qu'on, et c'est peut-être la solution pour s'en sortir, qu'on arrête d'essayer de lui prêter des vertus politiques subversives et qu'on accepte la pop culture comme une culture de masse presque apolitique. C'était le point de vue de John Seabrook, qui est journaliste américain au New Yorker et qui était notre invité dans la dernière partie de la Grande Table récemment pour son ouvrage Hits, enquête sur la fabrique des tubes planétaires.
Je ne pense pas que le monde de la pop ait des outils pour influencer les élections présidentielles. Il semble exister sur des plans totalement différents. Et une des conditions de la musique aujourd'hui, de la pop musique, c'est qu'elle n'est pas politique. Elle refuse la pop d'être politique. Elle veut simplement passer du bon temps et avoir du plaisir.
La pop musique qui refuse d'être politique,
Je suis pas d'accord du tout avec ça. Enfin, pour la pop musique, encore que, parce que l'exemple des différentes révolutions rap démontre exactement le contraire de ce que l'auteur dont j'ai lu le livre aussi, mais que je suis en profond désaccord, vient de dire. Mais n'oublions pas la subversion, n'oublions pas que les inventions de la pop culture ont aussi été inventées par des mouvements générationnels ou des mouvements politiques. N'oublions pas l'importance des musiques pop dans la lutte pour les droits civiques aux USA. N'oublions pas l'importance des mouvements rock français dans les mouvements de la marche des beurs des années 80 et le rap, etc. On est en pleine pop musique, en pleine pop culture. Donc non, je suis en complète désaccord
mais
avec
aujourd'hui,
ça. Il y a une exception politique.
Mais aujourd'hui, Bernard, c'est plus les mouvements civiques qui récupèrent la pop culture. C'est les institutions politiques.
Oui.
Et Barack Obama, premier président pop de toute l'histoire, en est quand même le meilleur exemple. Il l'a prouvé encore vendredi dernier lors de sa soirée d'adieu à la Maison Blanche avec un casting d'invités qui était très pop. Beyoncé, Jay-Z, son mari, George Lucas, hein, quand même. Il prononcera ses derniers mots ce soir. En attendant, il s'est déjà vu, vous savez, même offrir un job par Spotify, un job taillé sur mesure pour lui, président des playlists. Ça en dit long. C'est ça la pop culture aujourd'hui, c'est la culture du président des États-Unis, enfin en tout cas de l'ancien.
Oui, mais malheureusement, et ça c'est dans le côté clair de la force, pour parler de Jedi, mais n'oublions pas le côté obscur de la force, et c'est là aussi que mine de rien la pop culture reste malheureusement. N'oublions pas comment Daesh recrute. Daesh recrute, si on regarde leur bande-annonce sur YouTube, ils prennent des extraits de séries, de films, etc., avec la fameuse phrase de Dark Vador, le côté obscur de la force. Alors, en disant ça, ils désignent l'Occident. N'oublions pas que Daesh recrute comme ça. Donc ce qui veut bien dire quand même que la pop est utilisé alors soit par des barbares Daesh qu'il faut évidemment éliminer, soit justement par du côté clair de la force, justement des choses plus universelles, plus césariennes, plus glissaniennes, plus obamiennes, justement c'est vers ça qu'il faut aller. Mais des deux côtés de la force, on a très bien compris encore les référents et l'importance des codes.
Et comment la pop culture infusait toute la société? Une dernière micro-question, Dr. Mercier.
Est-ce que la pop culture a une vision politique du monde positive?
Une vision citoyenne, je dirais, une vision politique. Enfin, une vision politique, une vision engagée parfois. Une vision engagée, oui, parfois, mais très importante. Vision politique, effectivement, je ne suis pas toujours sûr, mais du fait qu'elle est parfois engagée, elle est politique.
Et est-ce qu'elle a encore un avenir pour vous dans le monde de demain, celui de la réalité augmentée?
Bah oui, c'est ma fin qui est un peu pessimiste quand même, enfin effectivement, parce qu'il y a à la fois Daesh, mais il y a aussi les applications du monde 3.0, les casques intégraux, le journalisme immersif, etc., qui reprend aussi les codes de narration de séries, le site Les Jours qui reprend une façon de raconter en série l'information, s'inspire directement des codes pop, donc oui, c'est là que réside le futur de cette pop culture.
Merci beaucoup Hubert Artus, Pop Corner. La grande histoire de la pop culture paraît cette semaine chez Don Quichotte. Merci à vous. Et
merci à vous, l'histoire retiendra que vous avez été les premiers. J'ai fait ma première interview radio pour cette
bienvenue
chez vous.
Bienvenue sur France Culture. Vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec l'émission à la page de La Grande Table sur franceculture.fr. Émission conçue par Claire Maillot et Clémence Marie, préparée par Nicolas Dutant et Henri Leblanc. Merci aussi beaucoup pour leur aide précieuse à Iso Tsikar et à Inès Magriff. Aux manettes aujourd'hui, Perret Legras avec Myriam Guillot. Demain, Émilie Deleuze et Marie Desplechin dans la première partie de La Grande Table. On parlera cinéma. Et dans la deuxième partie, l'historien Patrick Boucheron pour son Histoire mondiale de la France. Ce sera avec vous, Antoine Mercier, à partir de 12h55.